Voilà, donc je suis Gisèle Sapiro, je vais modérer cette séance. Donc je suis là, je vais modérer cette séance en tant que chargée responsable des relations internationales du bureau de la présidence de l'EHESS, qui a pris l'initiative d'organiser cette journée dans le cadre de Paris Sciences Lettres. Voilà, donc cette première session est consacrée au projet individuel et la suivante sera consacrée au projet collaboratif. Donc je vais tout de suite passer la parole à Philippe Roussignol, donc point de contact national de European Research Council, et qu'on remercie d'être venu
Bonjour.
Présenter.
Vous m'entendez, Louis? Donc je vais vous parler du Conseil européen de la recherche. Donc on le connaît plus sous son acronyme britannique ERC. Bon, je vais essayer d'être assez bref, hein, parce que généralement, quand on fait une réunion d'information sur les appels à projets, c'est quelque chose qui dure entre 2 heures et 3 heures. Donc je vais raccourcir ça et essayer de vous donner un petit peu un parfum de ce que sont les appels ERC. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'organisation spécifique du Conseil européen de la recherche, puisque Michel Wieworka est ici, et je pense qu'il est beaucoup plus approprié que moi pour entrer dans ce genre de détails. Je voulais juste vous présenter le point de contact national, bon, qui est quand même, sont vos interlocuteurs, somme toute. Hein. Donc ce point de contact est coordonné par le CNRS, hein, Laura Senem et moi-même, et il regroupe un certain nombre d'institutions hein, représentatives, donc des organismes hein, comme l'INSERM, l'INRA, l'INRIA, le CEA, et on a aussi le ministère, puisque Guillaume Fuset est aussi représentant au comité de programme pour l'ERC. Et bien sûr, la CPU. Alors, je voulais vous faire remarquer que vous avez ici Damien Vogel, qui travaille à l'école normale et qui est donc un représentant PSL. Et nous avons un référent sciences humaines et sociales, qui est Amélie Antoine Audeau de Sciences Po. Donc, ce sont essentiellement vos interlocuteurs privilégiés, mais n'hésitez pas à contacter quelques membres que ce soit. Donc, cet exposé sera... Bon, j'ai à peu près 25 slides... je vais vous présenter brutalement. On va descendre d'un échelon. Hein, vous avez entendu des choses d'un niveau très élevé. Moi, je fais des interventions beaucoup plus basiques. Hein. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, sur les appels ERC 2016, je vous ferai un bref zoom sur la participation en sciences humaines et sociales. Vous verrez que c'est assez contrasté comme bilan. Et je vous présenterai très très rapidement ce qu'est un dossier de candidature à l'ERC, comment se passe l'évaluation, et je terminerai par une slide de publicité sur les activités du point de contact national. Donc, grossièrement, hein, appel 2016, c'est 4 appels. 4 appels, alors vous voyez un appel en vert qui s'appelle Proof of Concept, je n'en parlerai pas, car c'est un appel qui est réservé aux lauréats ERC, c'est une aide à la valorisation d'une idée qui a été trouvé lors du déroulement d'un projet ERC. Donc on va se concentrer sur les 3 premiers appels. Vous voyez 2 appels Starting et Consolidator Grants qui sont réservés aux jeunes chercheurs et un appel pour chercheurs confirmés Advanced Grant. Donc Starting Grant, c'est de 2 à 7 ans après la thèse. Consolidator, c'est de 7 à 12 ans après la thèse. Et Advanced Grant, c'est pendant toute la carrière d'un chercheur. Vous pouvez remarquer que les financements sont conséquents. On vous a indiqué les financements maximum que l'on peut obtenir pour une durée de 5 ans. Ce qui est clair, c'est que vous n'êtes pas obligé de demander ce maximum, hein, que la somme que vous demandez est conditionnée par la nature de votre projet et de la façon dont il va se développer. De même, la durée, vous pouvez présenter un projet de 4 ans ou de 3 ans si votre activité le nécessite. Donc, pour les starting grants, le maximum pour 5 ans est de 1,5 million. La date limite de soumission, ben, c'est très proche, c'est demain en fait, c'est le 17 novembre 2015. Donc si vous n'avez pas bien réfléchi à votre sujet, j'ai peur que ce soit un petit peu juste. Et seront financés à peu près entre 330 et 350 bourses. Consolidator, donc c'est pour des chercheurs jeunes, mais un peu moins jeunes, hein, de 7 à 12 ans après le doctorat. Le financement est un peu plus conséquent, maximum de 2 millions pour 5 ans. Et la date limite de soumission est le 2 février. Et là encore, on va financer entre 330 30 et 350 bourses. Advance Grant, le financement est encore plus conséquent, 2,5 millions sur 5 ans, et une date limite qui est franchement confortable, puisque c'est le 1er septembre 2016, avec un financement de, disons, 230-240 bourses. Vous voyez qu'essentiellement, c'est du un tiers, deux tiers, hein, un tiers de chercheurs confirmés et deux tiers de jeunes chercheurs. Il y a des possibilités d'obtenir des financements supplémentaires pour trois raisons. Alors, c'est le montant des financements dépend de la nature de l'appel, mais les trois raisons, c'est quand le chercheur vient d'un pays tiers. Alors, au niveau européen, un pays tiers, c'est un pays hors Union européenne et hors pays associé au programme cadre. Pour la deuxième raison, quand on a besoin d'acheter de gros équipements, moi, en sciences humaines et sociales, je demande si c'est vraiment... Enfin, vous pouvez peut-être avoir besoin d'un supercalculateur. Et si vous avez nécessité d'accéder à des grandes infrastructures, alors, bon... Peut-être au CERN, je ne sais pas, vous voyez. Dans quelles principales caractéristiques de ces bourses? Bon, il s'agit de financer de la recherche exploratoire, donc, c'est recherche fondamentale, mais pas forcément aussi appliquée. Ça, et tous les domaines sont intéressés, donc les sciences humaines et sociales en particulier. Il s'agit de bourses individuelles, c'est-à-dire que vous présentez un sujet qui vous est propre, une idée que vous avez, vous vous entourez de l'équipe de votre choix, et ceci, quelle que soit votre situation, hein, ce n'est pas réservé aux chercheurs permanents, c'est aussi réservé aux chercheurs qui n'ont pas encore de poste. C'est une approche du bas vers le haut, hein, c'est un appel blanc, il n'y a pas de ciblage, vous proposez ce que vous souhaitez, et vous serez évalué par vos pairs, donc il s'agit de convaincre vos pairs que votre idée originale mérite d'être financée. Et il n'y a qu'un seul critère, c'est l'excellence. Excellence du porteur de projet et excellence du projet lui-même. Ça vous donne une autonomie financière pour 5 ans et éventuellement une mobilité dans toute l'Union européenne et pays associés, puisque ces bourses sont portables. C'est-à-dire que si vous avez, pour une raison scientifique, bien sûr, besoin de changer d'institution, eh bien, vous pouvez très bien partir avec votre bourse. Donc, les profils attendus, donc, ce qu'on attend pour les jeunes, ce soit essentiellement des jeunes indépendants. Et ça, c'est le mot-clé. Et bien sûr, qu'ils aient un potentiel scientifique élevé. L'idée, c'est de former une équipe pour les starting ou de consolider une équipe déjà existante pour les consolidateurs. Mais, bien sûr, votre expérience personnelle est toujours prise en compte. Si vous rentrez de l'étranger, vous avez passé 4 ou 5 ans en post-doctorat aux États-Unis, par exemple, et que vous rentrez sur un poste permanent, vous allez bien sûr créer une équipe, même si vous avez un profil consolidateur. Les projets peuvent être risqués. L'ERC accepte le risque, le recommande. Il y a un leitmotiv, c'est « high gain, high risk ». Bien sûr, ce risque doit être évalué et maîtrisé. L'ERC ne finance pas de la science-fiction. Donc, il faut l'évaluer et éventuellement proposer des solutions alternatives en cas d'échec. Pour les chercheurs confirmés, donc, ce qu'on recherche, c'est des gens qui ont un profil, qui sont reconnus au niveau international, mais qui mènent un projet ambitieux, un projet qui va ouvrir de nouveaux horizons. Et ce qu'on va leur demander, c'est quand même de prouver que lors des 10 dernières années, ils ont eu une activité scientifique soutenue, et pas seulement de l'administration. Bon, je vais revenir un petit peu sur les critères d'éligibilité pour les jeunes chercheurs. Donc, assez rapidement, pour être starting grant et pouvoir répondre à l'appel 2016, il faut avoir obtenu son diplôme entre le 1er janvier 2009 et le 1er janvier 2014. Et Consolidator, c'est 1er janvier 2004 et 31 décembre 2008. Notez qu'en France, sur un diplôme de doctorat, il y a deux dates. La date de soutenance et la date à laquelle le diplôme a été émis. Il arrive quelquefois qu'une des dates vous rende non éligible et que l'autre vous permet d'être éligible. L'ERC s'est engagé à prendre en compte la date la plus favorable. Donc ça peut servir. Il n'y a aucun critère d'éligibilité pour l'appel Advance Grant et bien sûr pour l'appel Proof of Concept, il faut avoir été lauréat. Il y a des possibilités d'extension de cette fenêtre d'éligibilité en cas de naissance. Donc pour les femmes, 18 mois par enfant, quel que soit le nombre d'enfants. Pour les hommes, il s'agit de prendre en compte les congés de paternité effectivement pris, donc avec certification de l'employeur. Il y a une autre condition qui est un petit peu plus triste, c'est en cas de longue maladie, plus de 3 mois, que ce soit pour le porteur ou pour ses proches, enfin, enfants, conjoints, parents. Médecin, on va laisser tomber. Service national, on va aussi laisser tomber. Sachez que si vous avez candidaté déjà en 2015, il y a des règles de limitation de candidature. Vous allez voir que l'évaluation se fait en 2 étapes et ces règles dépendent de la note qu'on a obtenue aux différentes étapes. Donc essentiellement en 2015, si vous êtes arrivé à l'étape 2 d'évaluation, vous pouvez resoumettre en 2016. Par contre, si vous n'êtes pas arrivé à la deuxième étape et que vous avez une note B, vous ne pouvez pas soumettre en 2017, mais pourrez resoumettre en 2017. Par contre, si vous avez eu la note C, vous ne pourrez pas soumettre en 2016 et non plus en 2017. Et si vous avez triché, eh bien, il y a 2 ans de suspension. Donc cette clause de manquement à la déontologie est nouvelle et je pense souhaitable et clémente, je dirais, à mon avis. Enfin, je pense que Michel Viaporca a son opinion là-dessus, mais une exclusion à vie, moi, m'aurait assez plu. Donc, un petit peu d'informations sur les résultats. Alors, déjà, le RC a défini 3 domaines dans les sciences. Donc, un domaine qui est plus science dure, un domaine science de la vie, et bien sûr, le domaine qui nous intéresse, là, de sciences humaines et sociales. Donc, avec en tout 25 panels d'évaluation. Alors, un panel d'évaluation, c'est 12 à 15 chercheurs de haut niveau hein, qui sont sélectionnés par le conseil scientifique. Donc, nous avons 6 panels en sciences humaines et sociales. Alors, ces membres de panel peuvent être connus, mais j'y reviendrai un petit peu après. Donc, au niveau des résultats, on va regarder déjà les chercheurs confirmés. Et vous voyez, c'est assez contrasté. Alors, si on regarde les soumissions, on s'aperçoit que la France, là, apparaît ici en 5e position. Et si vous regardez le facteur entre la France et le Royaume-Uni, bah, c'est grossièrement un facteur 3. Et on est à peu près au même niveau que l'Espagne, les Pays-Bas. On est au même niveau de soumission que les Pays-Bas. L'Italie soumet beaucoup. Alors, ce qui est très particulièrement intéressant, ce sont les taux de succès. Vous voyez qu'en bleu, les taux de succès français et les taux de succès européens. Et les taux de succès français sont notables. Hein. Vous voyez un panel comme les économistes, hein, SH1, on a plus de 20% de taux de succès. De même pour le panel SH4. Alors, SH4 est un peu trompeur. Hein. Il s'appelle Human Mind and Its Complexity. Et il y a aussi beaucoup de biologistes, tous les gens qui travaillent sur les neurosciences, qui s'insère dans ce panel de sciences humaines. Donc au final, comme les taux de succès sont élevés, vous voyez que la France s'en tire pas mal, hein, puisqu'elle est deuxième hein, au niveau Advanced Grant, mais il reste un différentiel énorme avec la Grande-Bretagne. Donc ça, c'est un premier élément à prendre en compte. Alors il y a quelque chose de beaucoup plus grave, c'est quand on regarde les jeunes chercheurs. Les jeunes chercheurs, vous voyez que ce facteur 3, maintenant, il est devenu 5 hein, par rapport au Royaume-Uni. Pour vous mettre un ordre d'idée, hein, ça c'est un chiffre brut, c'est sur 6 appels, c'est 50 projets déposés par an par des jeunes chercheurs français. 50. Bon, je ne qualifie pas. Les taux de succès sont assez contrastés. Vous voyez, les jeunes économistes, plus de 30%, 1 sur 3 qui est financé. Les historiens, 1 sur 5. Donc les taux de succès en SH3, qui est plus un panel de sociologie, si je ne me trompe pas, c'est aussi 1 sur 5. Donc il y a des panels où, par contre, ça ne va pas très très bien. C'est en SH1 qui est grossièrement les humanités. Mais au final, on passe de la 6e place en soumission à la 4e place en termes de bourse. Mais regardez le différentiel avec le Royaume-Uni, c'est colossal. Hein. C'est un facteur 4. On a presque 2 fois moins de bourses de jeunes chercheurs que les Pays-Bas. Alors, je ne me souviens plus exactement de la population. C'est 15 millions d'habitants, un peu plus de 60 en France. faites le rapport. Alors, il y a une autre spécificité qui m'interroge aussi. Donc ça, sont les lauréats ERC français suivant les différents domaines. Et en vert, vous avez les sciences humaines. Donc il y en a pas mal à Paris. Il y en a beaucoup à Toulouse. Alors ça, ce sont les économistes de la Toulouse School of Economics. Hein, c'est l'école de Jean Tirole. Et vous voyez que si vous faites la somme Paris, Île-de-France et Toulouse, vous arrivez à 87% des bourses qui sont décernées en France en sciences humaines. 87%. Alors, ce n'est pas tout à fait l'image que j'avais. Moi, je suis un pauvre physicien, hein, je ne connais pas bien votre communauté, mais je ne pensais pas que la communauté en sciences humaines ou l'activité en sciences humaines se résumait à cela. Donc, ça me pose personnellement un problème, sachant que du côté de Marseille, ce sont essentiellement des biologistes. Bon. Donc je n'en dirai pas plus et je vous laisse tirer les conclusions et j'espère qu'il va y avoir une mobilisation massive de cette communauté car il y a des financements conséquents à obtenir. Sachez que quand l'ERC accorde un budget, un appel, ce budget est réparti équitablement entre les domaines en fonction du nombre de soumissions. Donc plus les sciences humaines soumettront, plus elles auront de financement. Bon, si vous avez décidé de candidater à l'ERC, il y a quelques précautions à prendre. Première précaution, c'est de s'adonner à la lecture. À la lecture de essentiellement trois documents. Le programme de travail de l'ERC, qui est annuel, qui contient énormément d'informations sur l'évaluation, sur ce qu'on attend d'un projet. Il y a des guides du candidat, qui sont mis à jour tous les ans en tenant compte des nouveautés, bien sûr, du programme de travail, mais en tenant compte aussi des difficultés qu'ont rencontrées les candidats des années précédentes. Donc il y a un guide pour les jeunes chercheurs et il y a un guide pour les chercheurs confirmés. Et le guide de l'évaluateur est aussi mis en ligne. Donc c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on va demander à un évaluateur et de rédiger sa proposition en fonction des attentes de l'évaluateur. Il y a un site qu'il faut absolument visiter, c'est le site de l'ERC. On y trouve énormément d'informations. Déjà, vérifier, donc tous les projets qui ont été financés par l'ERC sont dans une base de données. Donc, la première chose à faire, c'est de vérifier que l'idée que l'on a n'a pas et déjà été traitée et financée par l'ERC. Ce n'est pas la peine de soumettre un projet, il y a peu de chances d'aboutir. Ou alors, s'il y a une idée proche, eh bien, va falloir se démarquer de ce qui a déjà été financé par l'ERC. Vous pouvez avoir accès à la composition des panels d'évaluation. Alors, bien sûr, pas ceux qui sont actifs pour l'appel en cours, mais sachez que les panels d'évaluation sont actifs une année sur deux. Donc, les appels 2016 vont être évalués par des évaluateurs qui étaient actifs en 2014. Alors, bien sûr, les panels d'évaluation sont renouvelés de 20 à 30% tous les ans. Mais la majorité des évaluateurs de 2016 étaient actifs en 2014. Donc ça vous permet de savoir qui va vous évaluer. Ça vous permet aussi de savoir, si vous avez un doute entre le panel d'évaluation à choisir, de voir dans quel panel votre proposition a la meilleure chance d'être évaluée. Bien sûr, c'est sur ce site que vous pouvez télécharger les guides, sur le site du PCN aussi. Et là, vous avez un certain nombre d'indications sur les calendriers des appels en cours. Donc, allez sur ce site, il y a énormément d'informations à obtenir. Alors, très rapidement, je ne vais pas entrer dans les détails du dossier de candidature. Voilà comment se présente un dossier de candidature. Et on parle de simplification. On est convaincu ou non, mais là, on ne peut pas ne pas admettre que ce dossier est simple. Il est constitué de quatre parties. La partie scientifique, c'est la partie de droite, hein, partie B1 et B2. Et vous voyez que la science, c'est un résumé détaillé de 5 pages et un projet scientifique de 15 pages. Donc c'est essentiellement 20 pages de science, 19 parce qu'il y a une page de budget. Donc, mais ces 19 pages, elles peuvent rapporter beaucoup d'argent, mais elles doivent être très travaillé. Donc, essentiellement, ça ne se rédige pas en une demi-journée. Donc, il y a d'autres parties qui sont des parties plus administratives. Donc, première chose à faire, vous voulez candidater, vous prenez contact avec la cellule Europe de votre organisme. Là, parce que c'est, déjà, vous ne pouvez pas ouvrir un dossier de candidature si vous n'avez pas le code PIC de votre établissement. Donc, c'est un code d'identification de la Commission européenne. Donc, ne perdez pas du temps à le chercher. Allez voir directement la cellule Europe qui le connaît. D'autre part, il y a un certain nombre de renseignements administratifs à fournir, des contacts administratifs que vous ne connaissez pas. Il va falloir établir un budget. Vous ne connaissez pas les grilles de salaire. Donc, ce n'est pas la peine de chercher le brut patronal qui correspond à un chargé de recherche de deuxième classe. Ces gens-là le savent, vous allez gagner du temps et pouvoir vous concentrer sur la science. Donc vous faites ça et vous avez un certain nombre d'informations à remplir. J'insiste un petit peu, c'est qu'il y a un tableau éthique. Et ce tableau éthique n'est pas là pour vous contraindre, mais là pour vous amener à poser des questions. L'expérience prouve que les projets en sciences humaines sont les projets qui ont le plus de problèmes avec les services éthiques de l'ERC. La Commission européenne ne financera pas un projet qui ne satisfait pas aux critères éthiques qu'elle a mis en place. Un exemple en sciences humaines, si vous faites une enquête et que vous interrogez des enfants, ça pose un problème. Si vous constituez une base de données avec des opinions politiques, avec des opinions confessionnelles, comment allez-vous protéger cette base de données? Donc il y a un certain nombre de questions qui vous sont posées dans ce questionnaire et il faut y répondre vraiment honnêtement et surtout réfléchir. Et ne pensez pas que si vous cochez non à toutes les réponses, ça ira tout bien. Hein. Votre projet, s'il doit être financé, sera scrupuleusement étudié. Hein. Les revues éthiques se font souvent en une étape, deux étapes et même trois étapes. Et tant qu'il n'y aura pas le feu vert du comité éthique, vous ne pourrez pas commencer votre projet. Donc, il y a un certain nombre d'annexes. J'attire votre attention sur un document qui est la lettre d'engagement de votre institution d'accueil. Ce document est un document légal. C'est un engagement et qui doit être signé par une personne qui est habilitée à engager juridiquement votre institution. Donc, je pense qu'ici, c'est le directeur de l'EHESS, le président de l'université, le délégué régional de l'INSERM, du CNRS. Donc, et encore une fois, les cellules Europe vont s'occuper d'avoir la signature de ce document. Mais quand on a un projet ERC, il faut discuter avec son institution d'accueil. Un projet ERC, c'est beaucoup d'argent et souvent, ça se traduit en mètres carrés. Et donc, il faut vraiment sécuriser ce dépôt, de savoir si votre institution, votre laboratoire a les moyens, a les possibilités de vous permettre de le développer. Pardon ?
On a 25 minutes.
Oui, mais je vais prendre 30 minutes, j'ai l'impression que c'est l'habitude de la maison.
Non, on avait 25 et on est très très en retard.
Oui, mais pourquoi tant en retard ? Donc j'ai encore un petit peu de choses à vous dire. Je pense que ce sont des informations qui peuvent être utiles. Donc l'évaluation se fait en deux étapes. Et dans la première étape, il n'y a qu'une seule partie de votre dossier qui sera évaluée. La partie qui contient le résumé détaillé. Et cette évaluation se fait par des membres de panel, uniquement. Donc pensez à soigner cette partie B1, parce que c'est elle qui vous fera passer à la deuxième étape. Et lors de la deuxième étape, le dossier est réévalué par les membres de panel, mais envoyé à des experts extérieurs qui sont, eux, des spécialistes. Alors, je vais très rapidement, juste quelque chose à prendre en compte. Les membres de panel sont de provenance diverses et variées. C'est une évaluation internationale. Vous voyez, ici, ce sont les institutions d'accueil des membres de panel jusqu'en 2013. Ce qui veut dire que vous ne vous adressez pas à un public français. Et qu'on a quelques spécificités un peu curieuses, mais qui ne sont pas forcément perçues correctement par un Polonais, un Tchèque, un Estonien, un Américain. On a déjà du mal à les comprendre. Donc. Autre élément à prendre en compte, Je vous ai mis les mots-clés relatifs au panel SH6 qu'est le panel histoire. Vous voyez que le panel couvre aussi bien l'archéologie, la paléontologie, que l'histoire moderne, l'histoire des sciences. Donc vous avez 12 membres de panel. Il est clair que ces 12 membres ne sont pas au courant de tous les développements pointus de chaque domaine. Un panel agit en généraliste. Donc, adaptez votre discours pour qu'un scientifique de haut niveau, non spécialiste de votre domaine, comprenne l'importance et la nouveauté de votre projet. Je ne commande pas cette diapositive. Simplement, si vous êtes starting grant ou consolidator, ne prévoyez pas starting grant, ne prévoyez pas vos vacances au mois de juin 2016. C'est là que vous risquez d'avoir un oral à Bruxelles. Activité du PCN, on publie tout ce qui concerne l'ERC, les événements. Si vous l'avez regardé, vous avez su qu'hier au ministère, on organisait une réunion sur ces bourses ERC. Pour les jeunes chercheurs, on organise systématiquement des réunions d'information sur l'interview qu'ils auront à passer à Bruxelles. Et c'est très important. Voilà, on a une hotline, vous envoyez un mail à cette adresse, on vous répond très rapidement, dans la journée, voire le lendemain. On a un site, le site de l'ERC et le portail du participant, et je vous remercie.
Merci beaucoup. Eh bien, je vais tout de suite passer la parole à Guillaume Fussé, donc, qui est point de contact national pour les actions Marie Curie.
Écoutez, bonjour. Merci pour l'invitation. Donc, en un mot, les actions Marie Curie, je vais revenir deux fois. Je vais les présenter en deux parties parce que les gens qui organisent cette journée ont eu la présence d'esprit de dire finalement, il y a des actions monobénéficiaires, vous avez vu le RC, il y a des actions monobénéficiaires dans Marie Curie, on regroupe ça ensemble, et ensuite il y a des actions partenariales en consortium, et on va tout regrouper ensemble, et je pense que c'est une bonne manière de présenter les choses. Donc j'ai essayé de présenter ça, donc ce qui veut dire que dans ma présentation, vu que j'ai un peu plus de temps dans la deuxième partie, je reviendrai plus sur la philosophie Marie Curie, que là j'ai un peu squeezé pour tenir en 10 minutes. Donc, Marie Curie, là c'est juste une présentation globale de ce que c'est que Horizon 2020, et vous voyez que Marie Curie c'est 6 milliards d'euros qui sont à côté des gros 13 milliards d'euros de l'ERC, ce qui veut dire qu'on nous voit assez peu, et quelque part, mais que ce n'est pas des projets inintéressants et qui n'ont pas du tout la même ampleur que l'ERC, puisque l'ERC, vous avez vu les montants. Là, ça reste des projets blancs, c'est l'intérêt, des projets individuels pour certains d'entre eux, mais c'est surtout des projets qui vont financer des salaires. Alors, quand on parle de Marie Curie, il y a 4 types d'actions. Aujourd'hui, je ne présenterai pas la dernière qui est co-fund, je présenterai les 3 premières, ITN, ARISE, qui sont en partenariat. Donc, celle-là, naturellement, je les présenterai tout à l'heure. Et là, je me concentre sur les bourses individuelles, IF, qui sont des bourses pour un postdoc ou un chercheur confirmé qui veut faire une mobilité. Alors, autant le RC a cette facilité de vous avez une idée, vous voulez déposer quelque chose. En Marie Curie, c'est blanc, donc vous déposez ce que vous voulez, votre programme de recherche, mais il y a quelques règles à connaître pour répondre aux attentes. On finance la mobilité et pas autre chose. Alors, j'ai mis les règles classiques pour qu'on soit tous d'accord dessus. En général, pour les projets Marie Curie, la mobilité du chercheur est permanente. Donc, on ne financera pas le salaire d'un chercheur en France, qui est en France depuis très longtemps. Il faut, pour pouvoir être financé par une bourse Marie Curie, en général, sauf s'il y a un contre-ordre, et c'est écrit en toutes lettres dans les programmes, dans ces cas-là, ne pas avoir séjourné plus de 12 mois lors des 3 dernières années dans le pays où on va. D'accord ? Alors, actuellement, les vacances, tout ça, ça compte pas, mais OK, on peut en tenir compte. Il y a quelques panels, entre autres, sur la partie bourse individuelle, le panel de, si on recommence sa carrière, le panel de réintégration si on revient d'un pays tiers, et le panel Society and Enterprise, qui ont des dates un peu plus flexibles, c'est-à-dire ne pas avoir séjourné 3 ans lors des 5 dernières années, ce qui donne un peu plus de marge. Ensuite, vous avez vu, le RC divise ces personnes en consolidators, starting et puis advanced. Nous, on a une autre règle qui est early stage researcher. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas soutenu sa thèse et qui a passé son master M2. Quoi qu'il en soit, si vous ne soutenez jamais votre thèse, ce n'est pas une obligation à Marie Curie, au bout de 4 années, vous avez soutenu votre master M2, au bout de 4 années de présence en recherche, vous devenez un chercheur confirmé, quoi qu'il en soit. Donc, un chercheur confirmé, c'est quelqu'un qui a soutenu sa thèse en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ou quelqu'un qui a soutenu son master M2 et qui a fait 4 années de recherche. Qui peut appliquer ? Naturellement, les académiques et les non-académiques. Je vous laisse lire les définitions parce que ça vous permet de voir que le secteur académique, c'est les définitions classiques et que tout le reste, c'est du non-académique. Et vous allez voir, souvent, on vous demande, c'est bien qu'il y ait une participation du non-académique. N'imaginez pas que le non-académique, c'est Peugeot, Renault, je ne sais pas quoi, Thalès. Ça peut être très bien un cabinet d'avocat, ça peut être un musée privé, ça peut être une association, ça peut être plein de choses. Donc le monde non académique, c'est tout ce qui n'est pas une institution de recherche, tout ce qui n'est pas une université, tout ce qui n'est pas... C'est tout cité. Donc tout le reste, c'est du non académique. Alors, ces bourses individuelles, j'y arrive. Donc, c'est pour favoriser la créativité des chercheurs, leur potentiel de recherche. C'est vraiment la carrière du chercheur. Pourquoi on va vous financer, vous ? Pourquoi on va vous évaluer, vous ? Il y a deux types de bourses, les bourses European Fellowship de 12 à 24 mois et les Global Fellowship, je vais vous les détailler, de 12 à 24 mois, plus une phase retour de 12 mois. Alors, si on regarde ça de façon ludique, vous avez l'European Fellowship qui, à mon avis, porte mal son nom. Elle est européenne que parce qu'elle est située en Europe. Hein, vous êtes là. Mais vous pouvez faire venir quelqu'un des États-Unis, un Japonais, un Américain, un Zimbabwéen, de n'importe où du monde peut venir travailler en Europe. Vous pouvez faire venir en France un Allemand, ce que vous voulez aussi. Donc il y a vraiment cette capacité de dire j'attire quelqu'un dans mon laboratoire qui a déjà une thèse, donc c'est un postdoc, et je le fais venir. Il n'y a pas de limite d'âge supérieur, ça peut être quelqu'un de confirmé qui a passé un an ou deux chez vous. Vous pouvez l'utiliser vous aussi pour partir. Vous voulez passer du temps en Allemagne ou en Suède, en Italie, que sais-je, en Roumanie, allez-y, déposez ça, on vous paiera votre salaire pendant un an. Donc, c'est quoi ces bourses ? C'est, on va vous payer pendant 12 à 24 mois. Vous pouvez être très bien faire ça dans le secteur académique ou non académique, hein, je vous ai donné les définitions. N'importe où, vous pouvez le faire. Vous allez avoir un superviseur qui va vous encadrer, qui va vous faire ça. Et ce qu'il faut penser, c'est que le chercheur doit être employé dans les meilleures conditions de salariale possibles et imaginables. Donc, pensez qu'en France, on a un droit du travail qui est ce qu'il est, contestable, etc. Je ne rentrerai pas dans les débats politiques du moment. Mais, entre autres, il garantit quand même que nos salariés soient très, très bien couverts. Donc, pensez à le mettre, parce que quand vous êtes évalué par un Roumain qui ne connaît pas le droit du travail français, il ne va pas savoir ça. Donc, quand vous dites qu'il sera employé comme un chercheur chez nous en CDD, qu'est-ce que ça veut dire ? Syndicat, machin, truc, mus, droit... si on est en région parisienne, on va avoir la carte orange à moitié payée. Enfin, il faut tout mettre. C'est des avantages non négligeables. Ça vous paraît évident. Pour un Français, ça n'est pas pour Bon, là, il n'y a pas de règle de nationalité, sauf pour les trucs. C'est que pour les chercheurs expérimentés. Et il faut trouver un bon contrat de travail. Quand on regarde un peu plus près, il y a trois types de bourses. Les bourses qui sont classiques, on va dire. Et là, vous devez choisir un panel scientifique qui vous évalue, parce qu'on ne va pas évaluer un biologiste avec un physicien. Donc, pour vous, il y a économie, hein, éco ou social, SOC, qui sont les deux panels dédiés. À nouveau, là aussi... Contrairement à un appel défi sociétal où la commission, elle a défini un titre, elle peut mettre les experts les plus à même pour relire le projet, là, elle va mettre des experts qui vont couvrir une large panel de choses. Donc, vous allez mettre des mots-clés pour raffiner votre projet, mais vous ne serez jamais relu par l'expert le plus pointu. Enfin, peut-être avec chance, mais pas obligatoirement. Donc, pensez quand même à faire que votre projet soit vraiment donne envie, soit peut-être pas si ciblé que ça, mais quand même assez généraliste. Deux autres petits panels qui sont intéressants. Le panel carrière, donc c'est pour des gens qui ont arrêté leur carrière et qui veulent redémarrer. Donc pendant un an, il ne faut plus avoir fait de recherche. Pendant un an, deux ans, trois ans, mais c'est ça l'idée. Le panel réintégration, vous connaissez quelqu'un qui est européen ou qui a vécu en Europe pendant cinq ans et qui est parti n'importe où à travers le monde. Vous voulez le faire revenir chez vous, il a ce panel réintégration. C'est pour reverse le brain drain, hein, c'est pour faire revenir les gens. Un nouveau panel totalement nouveau qui vient d'être créé cette année parce qu'il n'y a malgré tout pas assez de non-académiques qui participent à ça. C'est si vous allez travailler dans une entreprise, dans une non-académique, vous avez un panel qui va avoir de l'argent dédié spécifiquement pour lui, la règle de mobilité simplifiée puisque c'est 3 ans sur les 5 dernières années, et vous allez pouvoir toucher ce salaire. Donc là, ça va être important parce que je pense qu'en général, quand il y a une nouveauté, elle est peu utilisée parce que les gens ne connaissent pas. Donc, si vous voulez aller travailler en Allemagne dans un musée ou je ne sais pas quoi qui est de droit privé, utilisez ça et je pense que vous aurez un taux de succès plus important. En plus, comme la commission, elle veut que les gens y répondent, elle a donc décidé qu'elle mettait deux fois plus d'argent que le nombre d'entreprises qui répondent habituellement à ce genre d'appel. Voilà. Alors, pensez que ce projet, ça va être évalué en trois temps. Vous allez avoir le chercheur qui est évalué, vous avez le CV, on sait qui c'est pas anonyme. L'endroit où vous allez le faire. Donc, est-ce que vous avez fait ça à Thalès? Est-ce que vous faites ça ici? Est-ce que vous faites ça à Max Planck? Je ne sais pas. Et ensuite, il va y avoir le projet scientifique en lui-même. Tout ça en 10 pages. C'est très court, il faut tout mettre ça. Ça ne va pas être évalué que sur l'excellence scientifique, contrairement à l'ERC. On va juger l'excellence scientifique, l'impact de votre recherche et la manière dont vous la mettez en œuvre. Donc, il va y avoir plusieurs choses à mettre en œuvre. Il va falloir reprendre le template qui est vraiment très bien décrit, question après question. Alors, soyez super innovants dans votre recherche. Soyez vraiment... vraiment très scolaire dans la manière de répondre. Vous prenez le template et vous répondez point 1, point 2, et vous y allez 1, point 1, point 1, 1, point 2, et on y va, on répond chaque question. Je vais passer là-dessus, c'est des détails, parce que vous pouvez demander à faire des détachements au cours de cette histoire, donc il y a des règles, vous ne pouvez pas demander plus de 6 mois, etc. C'est du détail quand on en est là, c'est qu'on a déjà tout ficelé. Dernier point dans les global fellowships, dans les bourses individuelles, vous voulez travailler hors de l'Europe. Vous êtes ici à Paris, et vous voulez aller travailler sur une base de données américaine, canadienne, sur, je ne sais pas, moi, les problèmes des banlieues, etc., qui vous ont des, ils ont des données, vous voulez passer du temps là-bas à Los Angeles, eh bien, vous avez une bourse Global Fellowship. On va vous payer pour aller aux États-Unis ou pour faire partir quelqu'un de votre laboratoire aux États-Unis ou envoyer un postdoc là-bas. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut qu'il y ait une organisation haute qui va encadrer la personne là-bas, qui va s'engager à le recevoir, qui ne recevra pas d'argent. C'est-à-dire, c'est vous, ici à Paris, qui recevez tout l'argent, qui reversez l'argent au salarié qui est parti là-bas. Donc, il n'y a pas de problème, mais c'est vous qui gérez l'argent, ce qui est plutôt pas mal. Et il vous faut quand même une lettre d'engagement de cette institution haute qui sera juste partenaire, mais qui s'engage à recevoir la personne. Voilà la même manière de présenter. Donc, vous êtes en Europe, vous sortez d'Europe. Les mêmes panels que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on gagne quand on fait ça? Alors, hein, ce n'est pas les budgets de l'ERC, c'est quand même autre chose. Mais ceci étant, on vous paye un salaire avec une living allowance brute chargée, complètement charge patronale, tout dedans à 4 650 €. Avec un coefficient pays, si vous allez en Roumanie, vous touchez moins que ça. Si vous allez aux États-Unis, vous touchez plus que ça. Une mobility allowance, donc parce que vous êtes mobile, hein, vous êtes sorti, donc c'est mensuel. Et si vous avez une famille à charge, 500 € par mois. Vous pouvez aussi avoir pour l'institution qui pilote, ici en France, et c'est vous qui recevez, mais si c'est quelqu'un qui part au Max Planck, c'est Max Planck, 800 € de training management, etc. Et les management et overhead à 650 €. Les appels, vous avez largement le temps de le faire pour 2016. L'appel... c'est le 12 avril 2016 qui sera ouvert, clôture le 14 septembre. Si vous ratez, parce que vous avez le droit de vous représenter, ou si vous n'avez pas le temps d'être prêt pour le 14 septembre 2016, le même appel en 2017. Facile, 14 septembre aussi, a priori, vérifiez la date quand même dans un an, au cas où c'est changé à un jour près, c'est pas bon. Juste les chiffres des résultats, ne me demandez pas plus que 2014, que l'appel de cette année 2015 est clôturé là, donc je n'ai aucun chiffre à vous donner. Vous voyez que le taux de succès est autour de 18%, quels que soient les panels. Et je vous l'ai remis de d'autres façons, si vous n'aimez pas les ronds, vous l'avez en tableau, mais ça revient à vous dire exactement la même chose, hein, en fonction de Global Fellowship, Career Reintegration, etc. Je vous remercie de votre attention, j'ai fait 10 minutes 44, je trouve ça pas mal.
Merci beaucoup et merci d'avoir respecté le temps alloué. Donc, nous allons avoir maintenant deux témoignages. Alors, tout d'abord, Michel Viviorca, qui est directeur d'études à l'École d'études en sciences sociales, qui est administrateur de la Fondation Maison des sciences de l'homme et qui est membre du conseil scientifique de l'ERC, qui est aussi un ancien évaluateur. Donc, il va nous faire part de son expérience.
Merci Gisèle. Bonjour. J'ai hésité parce que d'un côté, je peux vous parler de choses très concrètes, précises et indispensables. Et d'un autre côté, j'ai envie aussi de vous donner quelques indications qui touchent à la politique de la recherche générale au niveau européen, au niveau français et au niveau de nos institutions. Donc je vais circuler un peu entre les deux. Alors j'ai été d'abord membre d'un panel, puis président de ce panel. Et depuis bientôt 2 ans, je suis donc au conseil scientifique de l'ERC, et c'est donc de ça dont je vais vous dire quelques mots. J'avais publié il y a 3 ans maintenant un article qui était encore moins dévastateur que ce qu'on a entendu tout à l'heure dans Le Monde, pour expliquer que, premièrement, la France était moins présente dans les succès au niveau national de l'ERC, et qu'en plus, mais ça c'est pas le thème d'aujourd'hui, l'influence ou la, comment dirais-je, la présence intellectuelle française était en grand déclin. J'avais examiné 50 dossiers du panel où j'étais, 50 dossiers de candidats qui allaient passer la deuxième étape, c'est-à-dire qui avaient été sélectionnés, les 50 meilleurs dossiers, qui allaient passer l'oral. Et j'avais regardé dans ces dossiers une chose, pour ma gouverne personnelle, qui étaient les chercheurs vivants français cités. Il y en a un seul qui surnage, c'est Bruno Latour. Voilà le résultat de mon enquête. Alors, quelques mots. Donc, premièrement, je voudrais insister sur le fait que le chercheur choisit son projet. C'est pas du tout de la politique scientifique où on vous dit il faut étudier ceci ou cela pour faire plaisir aux responsables politiques ou pour faire plaisir à la bureaucratie qui gère la recherche. Non, vous choisissez quand vous êtes candidat, vous choisissez, et ça c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il y a un très grand respect à l'ERC de l'autonomie, de la liberté du chercheur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un intérêt pour les éventuelles applications de la recherche. Il y a ce petit programme qui a déjà été évoqué tout à l'heure, qui s'appelle Proof of Concept, qui consiste à dire à des gens qui ont réussi, puisqu'ils avaient déjà eu une bourse de l'ERC, on leur dit maintenant, si vous voulez faire un pas de plus vers une application, vers des choses plus concrètes, eh bien, on vous donne jusqu'à, je crois, 150 000 euros. Enfin, je crois que c'est le budget moyen. Donc ça, c'est le premier point. Je voudrais vous dire quelques mots de tout ce qui touche autour des panels, de leur fonctionnement, etc. Alors d'abord, la chose la plus importante. Ce qui compte, je peux vraiment là en témoigner, c'est la qualité du projet scientifique. Bien sûr, il faut la lettre, il faut que vous puissiez dire que vous irez vous poser dans telle institution. Bien sûr, on regarde votre CV, etc. Mais on regarde d'abord et avant tout la qualité de votre projet. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment le premier point, mais c'est le plus important. Maintenant, comment ça se passe qui sont les membres des panels? Alors, ça fait partie des tâches des membres du conseil scientifique que de construire ces panels, de les transformer, de les faire vivre. Alors, c'est toujours très compliqué parce qu'on nous dit essayez quand même de doser un peu les choses. Il faut qu'il y ait des gens de différents pays. Gender, c'est évidemment capital. Enfin bref, il vaut mieux trouver une femme croate spécialiste de ceci ou de cela plutôt qu'un homme anglais qui aurait la même compétence. Alors on essaie de diversifier, c'est jamais parfait, mais enfin, les panels sont donc composés sur une base où on mêle un peu tout, y compris d'ailleurs le fait que les membres des panels peuvent venir du monde entier. Les institutions qui accueillent les recherches sont européennes ou pays associés, mais l'expertise, elle est mondiale. Évidemment, la question de la langue, je ne développe pas, mais enfin, tout ça vit en anglais. Vous pouvez exiger de vous présenter en français, mais ça affaiblit considérablement vos chances de succès. Alors, dans un panel, il se passe une chose très intéressante et très frustrante pour les membres du panel ou pour celui qui le préside. Les très bons dossiers, on règle rapidement leur cas. On les retient pour la phase suivante. Les très mauvais dossiers, on règle rapidement leur cas aussi. On les écarte tout de suite. Et on passe un temps considérable à discuter des dossiers moyens. C'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Ensuite, ce que je voudrais dire aussi, parce que ça n'est pas dit suffisamment, ces panels ne sont pas livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas simplement le président du panel et la douzaine de membres. Il y a également, au bon sens du mot cette fois-ci, en général j'utilise ce mot de façon assez négative, une bureaucratie scientifique qui est très présente. Il y a des gens qui vous aident, qui vous encadrent, qui vous aident. Moi je me souviens que quand j'étais président d'un panel, j'ai passé des journées entières avec un ou deux de ces bureaucrates, qui sont des gens très très bien, très formés, très éduqués, qui en savaient beaucoup plus que moi d'ailleurs sur l'ensemble de la population qui nous intéressait, à prendre la liste de tous les dossiers pour voir à qui on allait confier des expertises. Donc ce sont des gens très compétents et qui font partie du paysage. On n'imagine pas à quel point toute cette organisation de l'ERC, c'est une bureaucratie bien huilée, qui tourne bien. Il y a un autre point sur lequel je voudrais insister. Il y a deux obsessions dans le travail de ceux qui gèrent ces panels. et des panels eux-mêmes. Premièrement, tout ce qui est de l'ordre du conflit d'intérêts. Alors, si, par exemple, votre femme est candidate et que vous êtes membre du panel, bah, faut sortir. Mais quand vous sortez, tout le monde... c'est une indication aussi. Donc, tout ça n'est pas si simple. Mais enfin, tout ce qui est de l'ordre du conflit d'intérêts, il y a un très grand souci. Donc, je vous le dis, parce qu'il y a des gens qui savent traquer le conflit d'intérêts. Je ne sais pas trop comment ils font, mais enfin, ils découvrent que... Alors, je suppose que c'est Google et Internet qui permettent ça. Mais enfin, on découvre brusquement que... Ah, ah, c'est pas tout à fait clair. Bon, il y a rarement des problèmes, il y en a pas très, c'est pas très nombreux. Mais soyez très vigilants, ne vous mettez pas en position de conflit d'intérêts. Bon. Et il y a aussi un très grand souci qui est gender balance. Alors là, vraiment, ce sont des thèmes sur lesquels on réfléchit beaucoup au niveau du Conseil, mais c'est vraiment une grande préoccupation. Je voudrais dire aussi autre chose. Il a été dit tout à l'heure, et c'était très bien de le dire, que si vous êtes passé pas loin du compte, mais que vous n'avez pas été retenu, vous pouvez vous représenter tout de suite. Sinon, il faut attendre 2 ans. Je dirais que dans l'ensemble, et ça donne lieu parfois à des incohérences, dans l'ensemble, il n'y a pas de mémoire. Les panels changent. La composition des panels se transforme. Je dirais même leur libellé peut se transformer. Ce qui fait que c'est pas comme dans certaines instances où on était retoqué la première fois, mais on vous a laissé comprendre que le même jury vous reprendra le coup d'après. Là, il faut représenter. Ce qui fait que des gens peuvent avoir eu un score très bon, mais avoir manqué de peu le succès lors de la première évaluation, reviennent devant un panel un peu changé et se font rétamer, à mon sens, de façon parfois pas très cohérente. Et surtout, alors ça c'est un des problèmes, les panels, les responsables de panel veillent à l'issue de leur travail que chaque candidat non reçu puisse recevoir des indications sur ce qui s'est passé. C'est une des choses qui doit être améliorée. Je le dis aussi parce que le conseil scientifique, c'est une instance qui se passe son temps à réfléchir à comment améliorer sa pratique. On évalue beaucoup ce qu'on fait nous-mêmes. Et donc, c'est un vrai problème, ça. C'est le message qui est envoyé au candidat qui n'a pas été retenu. Parce que très souvent, il arrive que ce soit un peu bâclé ou un peu stéréotypé dans ce qui est envoyé et pas forcément très, très, très cohérent. Alors, j'indique aussi les problèmes, parce que je pense que ça n'est pas honteux de dire qu'une institution comme le RC peut avoir aussi des difficultés. Il y a toujours des problèmes. Des panels pas très bien composés, des experts extérieurs. Alors, l'expert extérieur, c'est quelqu'un qui va noter un dossier, mais sans participer à la discussion et sans même connaître la façon dont les choses se passent. Et il arrive que des experts extérieurs ne se rendent pas compte. Donc, par exemple, parce qu'une note trop négative, ça coule complètement un candidat. Bon, si un expert extérieur ne met que des mauvaises notes parce qu'il a l'habitude de noter très bas, bon, ouais, ce genre de problème, il faut aussi savoir qu'on essaie d'y faire face. Et puis, il y a des panels qui ont des difficultés de fonctionnement. Il y a quelques années, on s'était aperçu, par exemple, que le panel qui s'occupait d'économie, il était très mainstream et que ça laissait pas beaucoup de place à d'autres orientations scientifiques. Donc, on essaie de corriger. C'est pas toujours facile, mais vous voyez, c'est une institution vivante, c'est ça que je veux dire, et qui, je crois, va dans le bon sens. Alors, je vais pas revenir sur des choses qui ont été dites. On tient compte, évidemment, de l'expérience. Les jeunes chercheurs ne sont pas mis dans la même compétition que les chercheurs plus installés. Je développe pas tout ça. Je voudrais insister aussi sur une chose. Le RC est fait avant tout pour aider les chercheurs. On s'intéresse aux chercheurs. Mais deuxièmement, on essaye aussi, enfin l'ERC a aussi pour vocation de soutenir les institutions qui accueillent la recherche. Et par conséquent, une partie importante des fonds, je ne sais pas les chiffres, mais peut-être que Philippe les connaît, mais enfin, quand un candidat obtient une bourse ERC, l'institution où il va poser cette bourse reçoit aussi beaucoup d'argent. Et c'est ce qui explique un de nos grands problèmes en France. C'est qu'en France, nos institutions ne sont pas tellement outillées par rapport aux Anglais, aux Hollandais et d'autres, ne sont pas suffisamment bien outillées pour aider les chercheurs à se préparer, pour les accueillir, même s'il y a des efforts qui sont faits, bien sûr, mais pour les accueillir lorsqu'ils ont été sélectionnés, alors qu'il y a de l'argent. Je veux dire, ce n'est pas une opération économiquement nulle pour une institution. Et donc, je pense qu'un des gros problèmes français, en dehors de quelques lieux très précis, comme Toulouse, dont on a parlé tout à l'heure, un des gros problèmes français, c'est la capacité des institutions à se mobiliser vraiment en amont et en aval du travail des jurys. C'est considérablement, si je peux dire, c'est vraiment central. Je n'ai pas fait attention, mais je n'ai pas vu passer des statistiques par non pas par pays et par chercheurs, mais par établissement d'accueil. C'est encore plus impressionnant. Vous avez des institutions. Vous savez, il y a une institution à Londres, un collège, Goldsmiths College. C'est impressionnant, c'est une petite chose, le Goldsmiths College. Le nombre de boursiers ERC qu'il est capable d'accueillir. Bon. Et ce qui fait qu'il peut arriver, parce que le titulaire d'une grant, le boursier, peut poser sa bourse où il le souhaite. Il arrive qu'un candidat obtienne dans une institution française où il veut se baser, obtienne une ERC, et qu'aussitôt il reçoive un coup de fil ou un email d'une université britannique qui lui dit « Venez chez nous, on va tout de suite vous donner un poste de prof, et puis on va vous donner etc. etc. » Bon, on ne fait pas le poids suffisamment en France. Hein, je voulais vraiment insister. Le deuxième point, donc c'est une question d'établissement et une politique des établissements. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que cette politique de l'ERC, non seulement elle aide des chercheurs à se développer, à développer leur travail, mais elle crée des milieux, elle contribue à la création d'un énorme milieu de recherche de bon niveau. Car en moyenne, je n'ai pas de chiffre très précis, mais en moyenne, un chercheur qui obtient une bourse l'obtient pour travailler avec une équipe de 3 ou 4 jeunes chercheurs, des post-docs, etc. Donc, le RC a fêté son 5000e boursier, toutes disciplines confondues. Mais si vous considérez que chaque boursier, c'est 3 ou 4 fois plus avec le milieu qu'il constitue, ça veut dire que le RC, depuis sa création en 2007, a grosso modo aidé, directement ou indirectement, quelques 20 000 personnes. Pas dans toutes disciplines confondues. Mais ça, c'est quand même très important. Alors, les chiffres, vous les connaissez, les bourses peuvent aller jusqu'à 2 millions, 2 500 000. Alors là, mon expérience aussi, on ne discute jamais au niveau des panels du montant, ou exceptionnellement seulement, du montant qui va être alloué. Vous avez dit, j'ai besoin d'1 800 000 euros pour faire ceci, cela. Le panel dira oui ou non. Il est très rare, ça peut arriver, mais il est très rare que le panel dise 1 800 000, bon, il voulait en réalité, on va lui donner 1 200 000 et il sera très content. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Faites des budgets sincères. Faites des vrais budgets, parce que c'est pas un... Si vous avez besoin d'1 800 000, bon. Ensuite, il peut y avoir des discussions avec les services financiers de l'agence qui gère tout ça. Mais la décision qui est prise, elle correspond au budget que vous demandez. C'est donc très important, en fait, parce qu'en France, on a souvent le sentiment que je vais demander 100 000, comme ça j'en aurai bien 50, j'en aurai bien la moitié. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit. Alors, je termine par un dernier mot. L'ERC est, par définition, fonctionne toutes disciplines confondues. Mais évidemment, les sciences humaines et sociales essayent de se battre pour maintenir leur budget. Ça a été dit tout à l'heure, je sais, Philippe peut-être, mais plus il y a de candidats, mieux ça vaut, parce que ça permet de faire valoir une pression, une demande très forte. Alors, grosso modo, l'ERC, c'est 17% en sciences sociales. Voilà, grosso modo, le chiffre. Il y a 6 panels principaux. Il y a 6 panels pour les sciences sociales. Alors, on est pluridisciplinaire, donc on ne leur donne pas un nom de discipline. Mais enfin, grosso modo, chacun sait que le panel SH1, c'est l'économie, même s'il s'appelle, je ne sais plus, Individuals, Institutions and Markets, ou il a peut-être changé de nom récemment, mais enfin bon. Hein. Mais bon, on donne les noms ne sont pas disciplinaires. Il y a des croisements dans les panels, mais ce n'est pas au niveau des panels que se joue l'interdisciplinarité. Elle se joue dans le contenu des... dans le contenu des projets. Donc voilà ce que je pouvais vous apporter comme témoignage. Et ma conclusion, elle est double. Premièrement, la difficulté ou le pari pour l'ERC, c'est de conjuguer l'excellence et la démocratie. C'est-à-dire que l'idée, c'est de n'attribuer de bourse qu'à des dossiers excellents, mais l'idée aussi, c'est de regarder la carte de l'Europe et de se dire que oui, ben, y a des pays qui ne sont pas capables aujourd'hui de produire suffisamment de demandes ou de les accueillir ou de les aider et qu'il faut en tenir compte. Donc il y a une tension dont on en est conscient, même si on n'y apporte pas des réponses très, très, très favorables. Et la deuxième chose, c'est que nous vivons, et ça c'est une remarque plus large que je voulais faire en conclusion, nous vivons dans une époque où les sciences humaines et sociales, où nos disciplines sont très menacées. Regardez ce qui se passe au Japon Alors là, on ferme des départements entiers de sciences sociales. Regardez aux États-Unis, les budgets pour la recherche publique en sciences sociales sont très menacés. Regardez dans un certain nombre de pays, l'ERC est un de ces rares endroits au monde où nos disciplines sont reconnues par les autres disciplines, ont des vrais budgets. Bon, c'est quelque chose de très précieux. Et donc, ça vaut vraiment le coup, je crois, d'en être conscient. Si on vous propose d'être dans un panel, c'est une très bonne expérience, allez-y. Si on vous demande des expertises, alors je crois qu'elles ne sont pas rémunérées, les expertises de l'ERC, donc là, il y a un problème réel, mais c'est intéressant comme expérience aussi. Et déposer des dossiers, ça n'est pas si compliqué que ça. Il y a le problème de la langue, mais là, c'est une autre discussion. Voilà, j'ai essayé de pas être trop long.
Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. Il y a un point important, je crois, que tu as soulevé, c'est la question de la restitution aux candidats. Effectivement, je me rappelle quand j'étais observatrice indépendante pour la commission RH, il y a eu un débat parmi les experts sur fallait-il ou non faire un retour aux candidats dans la phase de présélection. Et ce sont les collègues experts américains qui ont insisté pour qu'il y ait un retour. Et ça me paraît important. Oui. Voilà.
Alors, il faut savoir comment ça se passe. On a travaillé pendant 4 jours à l'oral. Vraiment des journées très longues pour examiner tous les candidats, discuter, etc. Et après ça, on nous réunit encore une demi-journée. On dit maintenant, vous faites les rapports sur chaque candidat qui est retoqué. Bon, tout le monde en a un peu marre. Tout le monde est épuisé et tout. Bon, et il y a une tendance, c'est vrai, à ne pas avoir envie de faire ça.
Puis il y a un autre point peut-être qu'il faudrait dire aux collègues français qui se font débaucher par les institutions au Royaume-Uni, c'est que les institutions anglaises ne reversent pas les coûts indirects, contrairement aux institutions françaises. Voilà. Eh bien, je vais passer la parole maintenant à Pascal Burezi, qui est directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qui est directeur de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman, et qui est lauréat ERC pour une starting grant. Voilà.
Merci. Je vais essayer de brider un peu ma fougue, parce que je suis à la fois très critique à l'égard de l'évolution de la recherche actuelle et des financements sur projet, et en même temps, au cours des 12 dernières années, j'ai présenté 6 candidatures pour des projets, 2 ACI qui ont échoué, une ANR qui a réussi, le Starting Grant dont je vais parler un petit peu qui a réussi, mais dernièrement, à la fin 2014, j'ai présenté une Advanced où j'ai été bien classé, mais pas suffisamment bien, dans les 18-29% meilleurs, mais ce n'était pas suffisant. Et j'avais présenté aussi un Marie Curie, mais j'ai loupé la deadline d'une heure. Donc tout était prêt, les contacts étaient prêts et j'ai loupé. Donc je suis très critique et en même temps, vous voyez que je présente et j'incite aussi les personnes à présenter des projets ERC, en effet. Bon. Alors, le projet que j'ai s'appelle Imperial Government and Authority in Medieval Western Islam. Donc, je suis en histoire médiévale. Vous voyez que dans les topics qui ont été décrits par Philippe Caudren, je ne rentre pas du tout. En substance, mon projet, c'est l'édition ou réédition scientifique, la traduction et l'étude d'un corpus documentaire de 300 lettres de chancellerie d'époque almohade, le seul empire berbère qui a unifié le Maghreb et la péninsule ibérique au XIIe-XIIIe siècle. Donc quelque chose de relativement technique. Mais comme l'a évoqué Philippe, Pierre-Cyril Hocker, il disait il faut montrer les liens avec l'actualité. Moi, j'appelle ça rendre sexy. J'ai essayé de rendre sexy quelque chose qui n'est pas très, qui l'est pas vraiment, beaucoup, a priori. C'est donc un peu tout l'art, et puis ça marche parfois, et puis pour l'Advanced Grant, je pensais que c'était sexy, mais apparemment ça ne l'a pas été. Je rebondis juste sur les rapports. Pour les étapes de l'ERC, j'ai eu 6 rapports, 6 reviewers, et c'est bien en effet de les lire. Sur les 6, il y en avait 5 qui étaient extrêmement positifs, tant sur le parcours individuel que sur le projet, dont une personne qui me connaissait, qui connaissait les chercheurs que j'avais sollicités, et un qui était extrêmement négatif, et je pense que lui aussi me connaissait. Donc voilà, c'est pour vous dire. Et alors cela s'est traduit probablement, donc pour les conflits d'intérêts, bon, cela s'est traduit justement parce que je fais partie de ces Français qui demandent le maximum. Donc j'ai demandé 1,5 million, et j'ai obtenu 1 272 000 euros au total. Alors ça a été vaguement évoqué, c'est des problèmes qui sont importants. Dans ce 1 272 000 euros, il y a le salaire du chercheur pour permettre la portabilité, c'est-à-dire si on veut partir, être débauché ailleurs. Mon projet est porté par le CNRS, mais pour le HESS où j'avais présenté mon advance, c'est apparemment la même chose. Cette partie-là du salaire du porteur du projet est reversée au projet. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que certains appellent les over-overhead. Donc c'est une partie qui n'est pas justifiée à la... Oui, c'est à justifier comme étant le salaire du porteur de projet, mais en même temps, cela permet d'avoir des postes supplémentaires, ce qui, moi, m'a permis, par rapport à ce que j'ai présenté comme dossier, de recruter plus de personnes et donc d'avoir des moyens plus grands. Alors, je suis très critique parce qu'évidemment, ça donne un pouvoir à un individu sur un projet personnel qui est sans commune mesure avec le labo de rattachement. Mon budget annuel était plus important que celui de mon labo de rattachement, qui comptait plus d'une centaine d'enseignants-chercheurs. Bon, c'est un peu délirant. Et en même temps, j'avais participé à un séminaire politique des sciences qu'organisaient Robert Desimon, Claude Calame, Sophie Pochic, Sophie Desrosiers, etc. à l'HESS, où justement des physiciens montraient qu'une partie de ces over-overhead était parfois, ou qu'une des solutions serait de les reverser au laboratoire. Je ne sais pas si c'est légalement possible. Moi, la solution que j'ai trouvée, finalement, au bout du compte, c'est de réaffecter à des actions collectives une partie de ces sommes qui portent sur mon salaire. Alors, comme j'étais directeur de l'ISM, c'est ce que j'ai fait. Ça permet de... Il y a eu un congrès du GIS organisé Moyen-Orient, monde musulman. Ça a permis de soutenir un petit peu ces actions collectives du CNRS et de redonner à des laboratoires ou à des centres de recherche des sommes dont ils ont été privés au cours des dernières décennies, en gros. Voilà. Alors, pour le montage du projet, j'avais été extrêmement bien aidé par le SPV, le service partenariat et valorisation du CNRS, où en effet, pour tout ce qui est budget, on arrive, je ne savais pas qu'il fallait que je mette mon salaire dedans, ils m'ont tout expliqué, les grilles, en effet, c'est réglé en 2 jours, pour tous les papiers administratifs aussi, pour le CNRS, ça s'est très bien passé. Pour le HESS, ça a été de la même manière, Caroline Chu est là, qui m'a aidé, et ça a été réglé très vite, c'est des gens qui sont très compétents et qui vous aident parfaitement bien pour monter ce genre de projet. Donc en effet, il faut le faire en partenariat toujours avec, avec l'institution de rattachement. Le bilan donc positif, c'est qu'en effet, ça booste. Je pense que mon passage comme directeur de recherche au CNRS a été favorisé par cette ERC. Sur les 5 ou 6 post-docs que j'ai recrutés, il y en a 4 ou 5. L'un a été CDIsé, l'autre a trouvé un poste aux États-Unis, l'autre en France. L'un soutient sa thèse. Donc il y a globalement un aspect positif et c'est un peu pour ça. L'idée de départ, quand je me suis tourné vers les ERC, c'était que... Donc j'avais eu un ANR où j'avais eu un post-doc. Le post-doc était au chômage à la fin de l'ANR. Il avait un parcours qui ne lui permettait pas d'être recruté au CNRS ou dans une université. Du coup, je me suis rendu compte, on va retrouver des choses qui ont déjà été dites, que je connaissais 2 personnes à l'IRHT, un Allemand et un Néerlandais du CNRS, qui avaient chacun obtenu 1 million d'euros. Et j'étais parti de l'idée que les Français devaient avoir un petit plus, je ne sais pas si c'est vrai, mais proportionnellement, en fait, quand on est français, enfin, ou d'une institution française se présentant à l'ERC, on sortait, on l'a vu dans les chiffres, il y a pratiquement le double pour les résultats, 20% par rapport à une moyenne européenne qui est de 10%. Et de fait, ça a marché. Ça a marché pour le starting grant, pour l'ERC, pour l'advance, c'était beaucoup moins... C'est beaucoup moins marqué et en effet, j'ai échoué lamentablement. Mais je représenterai, puisque vous avez bien compris que je déteste les projets, mais que je les présente en permanence. La conclusion quand même, c'est que on vous a tout présenté comme étant très simple. C'était très limpide d'ailleurs la présentation. Il n'empêche que c'est un casse-tête infernal parce qu'il faut comprendre les topics, les panels, les machins. Alors là, le premier projet ERC, commencé, j'ai passé 2 mois à temps complet à faire lire mon projet à des anglophones, franco-américains, irlandais, des potes qui me rendaient service, à qui j'ai offert le champagne après. Pour l'Advanced, j'y ai passé 5 jours. Bon, donc évidemment, une fois qu'on a... La première fois, ça coûte énormément. Puis la deuxième fois, on abat un petit peu plus. En même temps, je ne l'ai pas eu. Donc peut-être qu'il aurait fallu que je passe 3 mois supplémentaires. Bon, mais en même temps, je me dis, bon, l'investissement en temps, bon, je l'ai présenté. Quant au Marie Curie, c'était parfait. J'ai mis 1 semaine à le préparer, mais je n'ai même pas appuyé sur le bouton. Donc c'était encore mieux. Le bilan, quand même, c'est que tous les 18 mois, on doit faire un rapport financier. Il y a des navettes avec la Commission européenne qui sont très pénibles. Vous recevez des lettres en vous disant vous êtes en retard d'un mois, on vous coupe les fonds. Donc voilà, bon, vous en recevez 2-3 d'affilée. Il y a tous les 18 mois ce rapport financier à faire. Tous les 2 ans et demi, un rapport scientifique, et à la fin aussi. Mais quand vous avez la chance d'être à l'EHESS ou à l'université, vous n'avez pas de rapport d'activité à faire. Quand vous êtes au CNRS, vous avez des rapports. Tous les 2 ans, en fait maintenant c'est tous les 5 semestres et tous les quadriennaux avant, maintenant quinquennaux. Donc en gros je fais trois rapports d'activité tous les 2 ans, dont l'un en anglais au moins, plus les projets que je présente. Donc ça la littérature grise occupe maintenant 25% enfin, de mon temps de recherche. Donc je fais moins de recherche, plus je fais plus administratif, donc c'est parfait. Je suis de moins en moins chercheur, mais ça tombe bien, je suis directeur, j'ai plus grand-chose à gagner. Voilà. Donc c'est pour vous dire, il y a du bon. Ça permet d'aider des post-doctorants au moment où les postes au CNRS, à l'université. Bon, moi je suis sur une thématique, l'islam, qui est très porteuse, mais enfin l'islam au Moyen-Âge, beaucoup moins. Mais donc, voilà. Je m'arrête là, je suis à 8 minutes 30, je déteste les longues réunions, donc si vous avez des questions. Voilà.
Merci beaucoup, Pascal, pour ce témoignage tout à fait sincère des expériences dans lesquelles je me suis pas mal reconnue. Nous sommes très en retard, mais je pense que vous avez quand même des questions. Je suggère, parce que Michel Vivorca doit s'en aller, qu'on pose des questions d'abord à Michel s'il y en a,